Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à chacun, nous allons ouvrir une nouvelle page de notre Bible et je vous propose que nous fassions notre lecture ce matin travers l'évangile de Luc au chapitre 18, et voilà ce que nous avons sous les yeux, et je vais apporter ensuite un commentaire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit ceci: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête ». Le Seigneur ajouta: entendis ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors nous avons là matière à réfléchir, et à travers cette méditation, j'aimerais justement insister sur cette dernière phrase où il est dit ceci: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, s'il y a un titre finalement, peut-être à dédier à cette parole, c'est tout simplement le retour de Jésus-Christ. Et nous savons une chose, c'est que les chrétiens des premiers siècles avaient une foi vibrante, une certitude sur le propos du retour de Jésus-Christ. Comme Jésus l'avait dit dans un des évangiles, et il dira ceci à ses disciples: je reviendrai, je dis bien, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Il y a dans cette possibilité d'introduction d'ajouter ceci: il s'agit d'un exposé du phénomène de déchristianisation des derniers jours, que l'on appelle dans la Bible, dans le Nouveau Testament, l'apostasie. Entendez, déchristianisation des derniers jours. Alors, dans ce paragraphe que nous avons lu, il est question des injustices de la vie et le retour de Jésus-Christ. Et nous voyons que Jésus va souligner, en faisant reposer cet enseignement sur la délivrance qui viendra, la délivrance attendue, délivrance ultime et finale. Alors nous allons commenter maintenant le texte, tout simplement, et j'aimerais prendre une parole également pour ajouter à la première, dans Luc chapitre 17 et à partir du verset 26, pour nous montrer, pour nous donner une évaluation des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Jésus dit: « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, c'est-à-dire de moi-même, dit Jésus. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. » On va un peu plus loin. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Avec cette simple conclusion, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà, nous avons deux faits historiques dans l'histoire de la Bible. C'est l'histoire de Noé et l'histoire de Lot, où véritablement, eh bien, l'humanité de l'époque a été prise par surprise, à l'improviste, et nous savons que, en raison de leur indifférence, de leur incrédulité, et de tout ce qui comportait leur vie à l'époque, qui était véritablement, eh bien, une offense à Dieu, voilà que le jugement est arrivé à ce moment-là. Alors, nous avons les conditions pour être sauvés au moment où Jésus reviendra. Et je poursuis la lecture. Il nous est dit au verset 31, « En ce temps-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot, ce que nous avons lu tout à l'heure. Celui qui cherchera, avec cette conclusion, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra, et celui qui la perdra, et nous pouvons ajouter parce que c'est dans un autre texte de l'Évangile, la retrouvera. » Alors il s'agit naturellement, et bien là, tout simplement, d'une disposition de cœur que l'on appelle la foi, disposition d'esprit, de confiance en Dieu. Le Seigneur reviendra, il nous est dit dans la Bible, en un clin d'œil. Il prendra avec lui tous ceux qui, détachés des biens et préoccupations terrestres, puisque nous avons eu le manger, le buvait, etc., etc., sont entièrement prêts à le suivre. Pour ceux qui sont entièrement prêts à le suivre, sera la condition ultime pour être enlevé, pour partir avec Jésus et l'accueillir lorsqu'il reviendra. Les autres, c'est-à-dire ceux qui vont rester, retenus affectivement et moralement à ce qui les lie à la terre, reste en arrière. Jésus décrit cette disposition intime par une série d'actes extérieurs qui trahira leur véritable appartenance. Quand Jésus passera, quand il reviendra, celui qui sera sur la terrasse de sa maison, qu'il ne cherche pas à emporter ses meubles. C'est l'abandon de tout sur l'instant, sans hésitation. Celui qui se trouvera au travail dans les champs, ne revienne aucunement dans sa maison pour y rassembler ses affaires. Pourquoi faire? Le Seigneur serait déjà passé. Souvenez-vous de la femme de Lot qui a tout perdu parce que finalement, eh bien là, son cœur n'était pas devant, n'était pas dans l'attente finalement de Dieu, mais était, eh bien là, en arrière, dans le regret d'avoir dû quitter précipitamment Sodome et Gomorre. Le Seigneur serait déjà passé, souvenons-nous de la femme de Lot, je le répète. Le verset 33 nous dit celui qui cherchera à sauver sa vie, et celui, eh bien, en effet, il la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Voilà ce qu'est sauver sa vie. C'est se cramponner à quelque objet avec lesquels on identifie son bonheur, sa raison de vivre, et c'est le moyen de perdre sa vie véritable, c'est-à-dire l'éternel, et de peur avec le monde, et de périr avec le monde, dont tout l'espoir, eh bien, de celui-ci est sur la terre. Il n'y a rien, finalement, aucune préoccupation pour le ciel, tout est sur la terre. Perdre sa vie, c'est avoir l'énergie de tourner résolument le dos à tout ce qui n'est pas le Seigneur lui-même. Ça serait le seul moyen de la conserver. Et c'est une question sur le comment et bien du retour. Alors, je voudrais rappeler des vérités qui nous sont annoncées dans la Bible. Il y a ce que nous pouvons appeler la parodie dont il est question du retour de Jésus-Christ. À trois objets définis. D'abord, l'enlèvement de l'Église pour les racheter et les convertir. Deuxièmement, le jugement du monde incrédule. Je précise bien, le jugement du monde incrédule. Et le troisième point, c'est l'établissement du règne de Dieu appelé le millénium. Ici, ce qui nous intéresse selon les propos de Jésus, c'est le grand triage qui fera apparaître deux types de situations dans l'humanité, les pris et les laissés, ceux qui vont être laissés pour compte et ceux qui seront les rachetés parce qu'ils ont la foi. Et en effet, Dieu va les prendre avec lui. Le verset 34 à 37 nous dit ceci. « Je vous le dis en cette même nuit, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les pris, appelons-les tout simplement des frères, ceux qui s'identifient à Jésus et qui ont la même foi, en effet, que nous dans sa rédemption, dans son salut. Et ceux qui sont en Christ, on pourrait les comparer à une autre image laissée par Jésus dans une parabole, c'est les vierges sages, les serviteurs vigilants et fidèles, les vainqueurs. Éclairons-nous sur la question suivante, tout simplement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Parce qu'il nous est parlé de ce retour de Jésus, il nous est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, dans les nuages, dans le ciel, à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » L'unité spirituelle de l'Église sera rendue visible. Il nous est dit que tout œil le verra. Il ne faut pas confondre l'apparition de Christ sur la terre pour y établir son règne après jugement des nations. Ça, c'est la deuxième phase qu'on appelle la parousie. C'est le mot que j'ai prononcé il y a quelques instants. Et sa venue dans les airs pour prendre son Église. C'est l'enlèvement des croyants rachetés. C'est la première phase. Dans les nuées, Jésus vient pour les siens sur la terre. Il vient et il reviendra avec eux dans l'autre phase. Il n'y a pas deux venues, mais une seule en deux actes. L'intervalle entre deux sera une période extrêmement troublée, une grande tribulation ou longue tribulation, comme l'on veut, pour les laissés, les incrédules, les réfractaires, mais aussi les négligentes, que l'on peut appeler, en prenant la première expression, les vierges folles et les vierges sages. Celles-ci seront les négligentes, donc les vierges folles. Toutes les relations terrestres seront rompues. En une fraction de seconde, même les plus intimes, dormir dans un même lit, c'est bien véritablement l'image de l'intimité. Cela n'évoque-t-il pas que l'enlèvement se produira de nuit? Il nous est parlé finalement de nuit. De nuit pour les uns, dans une hémisphère, de jour pour les autres, ceux qui seront au travail, telle l'image de ces femmes, en activité à moudre le grain et ces hommes au champ. Qu'ils dorment ou qu'ils travaillent, l'homme sera laissé ou pris selon l'état de son cœur. Quel solennel et ultime avertissement même pour l'Église à se tenir prête, le temps n'est pas à autre chose que la préparation au départ pour le grand voyage. Dans Luc chapitre 21, il est dit cette parole, parce que nous croyons, Père éternel, que tout cela est tellement important. Et au verset 28, il nous est dit tout simplement, « Alors le Fils de l'homme, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire, quand les choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Et je poursuis un peu plus loin. Dès qu'ils ont poussé, il nous est donné cette comparaison. Voyez le figuier, les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez ou vous reconnaîtrez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et pour terminer, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Alors, en conséquence, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le verset 37 de notre passage nous dit « Mais les disciples dirent à Jésus, où est-ce, Seigneur ? Et il répondit, « Où sera le corps ? Là s'assembleront les hommes. » C'est-à-dire qu'il s'agit finalement eh bien, de ceux qui sont morts en dehors de la foi. Question de curiosité peut-être, la réponse fortement impressive ne laisse aucun doute. Jésus indique l'extension du jugement sur le monde entier. Le corps, c'est l'humanité qui n'a pas voulu de la vie de Dieu en elle, soit un corps mort, c'est ce que nous dit finalement le livre des Éphésiens, tandis que les aigles typifient les châtiments qui viendront s'abattre sur ce corps où la vie n'a jamais été réellement eh bien, une réalité. Vie matérielle, une vie charnelle, mais non spirituelle. Alors le retour, c'est, nous pouvons le trouver finalement dans l'espérance de la parabole de la veuve que nous avons lue tout à l'heure. C'est une exhortation à hâter par la prière cette grande délivrance que l'on appelle l'enlèvement, à ne pas se relâcher, même si eh bien, l'événement tarde à venir et il faut savoir attendre. Et ça, c'est la foi qui peut nous donner finalement eh bien, la capacité d'attendre et d'espérer. Jésus revient bientôt. Que l'Église redouble de prières incessantes, c'est ce que nous donne l'exemple de cette pauvre veuve. La relation des deux récits est évidente, surtout face au danger que court l'Église de se laisser subjuguer par l'assoupissement et l'insouciance qui est décrit précédemment. Nous voyons que les hommes, dans leur inconscience du retour de Jésus-Christ ou dans le vouloir ignorer le retour de Jésus, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, achetaient et vendaient, plantaient, bâtissaient, etc., etc. Tout était finalement dans leur préoccupation pour la terre et aucune pensée pour le ciel. Alors au cœur de l'humanité qui a perdu la conscience de Dieu, l'Église de la fin des temps est présentée sous l'image d'une veuve qui n'a plus comme seule défense que la prière persévérante dont l'intensité est même signalée jour et nuit, ultime moyen de conserver sa foi et accélérer le processus de sa délivrance. La figure austère et rébarbative du juge que nous avons en effet eh bien la cité dans notre paragraphe, de ce juge injuste, de ce juste mauvais et méchant, offre l'idée de l'opposition que rencontre cette veuve, qui est l'image toujours de l'Église, dans un monde qui lui est hostile. Cependant, cette adversité ne fait que renforcer sa pugnacité à prier, jusqu'à la victoire définitive. Et nous avons que, en effet, Jésus, cette supposition dans cette parabole, il dira, en quelque sorte, comme une forme de conclusion, tardera-t-il à leur égard, tardera-t-il à délivrer ses élus ? L'application pratique se trouve au verset 6 et 8 que nous avons lu dans notre texte tout à l'heure. Et dans ce verset 6 et 8, je le relis à votre intention, il est dit ceci, « Le Seigneur ajoute, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, jour et nuit, tardera-t-il à leur égard ?» Alors je vous dis promptement, eh bien qu'il ne tardera pas. Voilà, l'attitude du juge est révoltante, mais a pour mérite de diriger tous les espoirs qu'en Dieu, et en Dieu seul, qui lui n'est ni sourd ni injuste. Dieu est parfait, quand bien même l'épreuve seule semble interminable. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui espèrent en lui ? Tenez bon, le secours vient promptement, tout à coup, de manière, non pas à éblouir les regards, mais certes à surprendre le monde, comme au jour du déluge, et ceux, des habitants de Sodome en son temps. Mais vous qui priez, attendez encore un peu, à moins que, mais quand le Fils de l'homme viendra. Et c'est véritablement sur cette note que je voudrais terminer. Ce qui semble inquiéter Jésus, puisqu'il le relève, objet final de la parabole, n'est pas la disposition de Dieu à délivrer ses élus, parce que normalement c'est prévu, et là Dieu ne se renie pas de ses dons et de son appel, mais plutôt la question de savoir si l'Église persévérera et tiendra sa foi ferme jusqu'au bout. D'où ces mots, trouvera-t-il la foi sur la terre, la foi parmi les hommes. Alors voilà un sujet de préoccupation dont chacun de nous avons la réponse pour nous-mêmes, oui ou non. Croyons-nous à l'avènement proche du Seigneur et nous y préparons-nous. Alors que Dieu nous bénisse à travers cette parole, à travers cette réflexion. Et sachez que le Seigneur est proche à la porte et qu'il n'est pas un juge inique, mais un juge parfait, infini, et qu'il fait grâce à ceux qui sont là dans cette attente. Alors, sous une forme de prière ou une autre, quelle que soit l'expression, mais toujours est-il dans cette attente de cœur, dans cette, maintien de leur pensée à regarder vers le ciel et non pas regarder seulement vers la terre. La terre, c'est pour la vie des hommes, c'est pour l'humanité que nous sommes aujourd'hui. Mais néanmoins, Dieu a déposé une petite graine à l'intérieur de nous-mêmes, c'est une semence qui va se développer tout au long de notre existence. Et là, à ce moment-là, nous ne marchons plus en regardant vers la terre, mais nous marchons en regardant vers le ciel parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse du bien à travers cette parole d'espérance. Et nous nous reverrons d'ici quelque temps, en effet, pour un autre message, pour un autre commentaire, une autre réflexion biblique. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.